Vivre FM Podcast.
Recherche et partage, jusqu'à midi sur Vivre FM, Blandine Lacour.
Bonjour et bienvenue dans Recherche et partage. Nous allons parler santé mentale aujourd'hui et plus précisément de la non-prise en compte de la parole des personnes dites handicapées psychiques par les décideurs publics. Alors on ne les écoute pas ces personnes-là, au mieux on les entend et encore. Pourquoi, comment, quels sont les freins qui bloquent la prise en compte de leur parole? Qu'est-ce qui fait que la parole de certains n'a pas la même valeur que celle des autres? Est-ce que c'est normal? Advocacy France et ses partenaires viennent de publier un rapport au terme d'une année de recherche, soutenu financièrement par la FIRA, Fondation Internationale de Recherche Appliquée sur le Handicap. Et c'est ce rapport d'étape, ce rapport intermédiaire, dont il va être question dans un instant. Bienvenue dans Recherche et Partage. Aujourd'hui, autour des micros, nous accueillons Isabelle Maillard, qui est sociologue et chercheure. Bonjour Isabelle. Claude Deutsch d'Advocacy France, qui est notamment conseiller scientifique et technique auprès de l'association et qui est un des initiateurs du projet de recherche dont on va vous parler dans un instant. Et puis Philippe Guérard, qui est président d'Advocacy France. Tous les trois sont déjà venus dans Recherche et Partage pour nous parler d'un projet de recherche qui s'appelle de la disqualification à la prise de parole en santé mentale. Recherche sur les conditions d'émergence, de reconnaissance et de prise en compte de la parole des personnes dites handicapées psychiques par les décideurs publics. C'est un peu long, mais on va y revenir et vous comprendrez tout dans un instant. Je crois qu'on va commencer par préciser, parce que je disais dans mon intro que ce projet de recherche est soutenu financièrement par la FIRA, Fondation Internationale de Recherche Appliquée sur le Handicap. On va tout de suite préciser avec vous, Claude, que ce n'est pas le seul financeur et qu'il y a notamment un gros financeur que je n'ai pas cité.
Oui, c'est la CNSA, la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie. Et puis on a également des partenaires qui sont la Fondation de France et par l'intermédiaire du CCAH, le groupe Humanis et AG2R.
Voilà, comme ça, on les a cités au moins une fois dans l'émission, ils ne nous en voudront pas trop. Alors, la disqualification de la prise de parole des personnes dites handicapées psychiques, c'est un sujet sur lequel vous avez tous travaillé pendant déjà un an dans le cadre de cette recherche, et bien évidemment avant pour la plupart d'entre vous. Qu'est-ce qui vous a conduit d'abord à envisager ce projet de recherche? Et là, c'est encore une fois peut-être Claude qui va commencer à répondre, puisque vous êtes à l'initiative notamment de ce projet.
Oui, on avait déjà expliqué ça l'an dernier. C'est à la suite d'une journée d'études qui avait été organisée par la Maison des sciences sociales du handicap et le CFHE, le Comité français pour les personnes des personnes handicapées pour les affaires européennes, qui voulaient travailler sur la mise en œuvre en France de la Convention de l'ONU des droits des personnes handicapées, et étaient présents à cette réunion justement des représentants de la FIRA et de la CNSA qui ont fait savoir qu'ils étaient demandeurs de recherche dans ce champ-là. Pour la mise aussi à jour des difficultés que présentait la mise en œuvre de cette convention de l'ONU des droits des personnes handicapées. Et moi, je me suis dit, mais qui est le mieux placé pour pouvoir en parler, sinon les intéressés eux-mêmes, et dans le champ de la santé mentale, les usagers en santé mentale, qu'aujourd'hui, pour leur grande majorité, on considère comme des personnes handicapées psychiques. Voilà comment est venue cette idée de proposer à la FIRA et à la CNSA ce projet de recherche.
Elle est venue clairement d'un décalage, en fait, entre, vous citiez la convention de l'ONU, il y a aussi la loi de 2005 en France, mais d'un décalage entre la loi, la réalité politique, on va dire les intentions en tout cas, et la réalité, le vécu des personnes qui, la plupart du temps, peuvent constater que leur ne sont pas vraiment entendus, écoutés comme d'autres. On les écoute un petit peu moins, malgré des recommandations, malgré des paroles politiques qui disent « on écoute tout le monde de la même façon ».
Absolument. Mais alors, la question était de se dire, mais voilà, s'il s'agit de faire une recherche solidement argumentée, évidemment, les usagers, traditionnellement, les usagers en santé mentale, regroupés dans des groupes d'entraide mutuelle, ne sont pas des chercheurs. comment faire travailler ensemble des chercheurs en sciences sociales et des usagers, et pourquoi pas proposer à ces usagers d'être eux-mêmes en position de chercheur. Tel est notre défi sur cette question et sur cette recherche.
Et un défi que vous avez relevé, donc déjà pendant un an, et la recherche va continuer, on le précise. Aujourd'hui, on a un rapport d'étape qui précise déjà un certain nombre d'éléments, de problématiques aussi que vous avez rencontrées, on va y revenir. Mais il y a eu tout ce travail pendant un an avec des sociologues, et là je me retourne vers Isabelle Maillard, qui donc est aussi dans ce projet depuis l'origine. Comment vous avez déterminé la façon de travailler avec les premiers concernés, les personnes handicapées psychiques? Claude le disait à l'instant, c'était déjà un premier défi dans cette recherche de donner la parole et de faire en sorte que ces personnes soient leaders, on va dire, dans cette recherche.
Oui, tout à fait. En fait, l'idée, c'était de s'appuyer sur les groupes d'entraide mutuelle, des groupes de base donc, qui sont déjà constitués. Hein. Ce sont des espaces d'accueil où sont reçues les personnes dites handicapées psychiques, hein. des groupes, des lieux qui ont été créés par la loi de 2005. Donc voilà, on s'appuyait sur ces groupes existants dans le cadre de l'association Advocacy France, qui ont une longue histoire, hein, qui est plus ancienne d'ailleurs que les groupes d'entraide mutuelle, puisque l'association est à l'origine de la mise en place des espaces citoyens conviviaux, donc qui ont amorcé en fait la mise en place de ce type d'espace d'accueil dédié aux personnes handicapées psychiques. Et donc l'idée, voilà, c'était de s'appuyer sur ces groupes existants pour recruter les personnes qui étaient volontaires pour s'inscrire dans une démarche de recherche.
Et alors, ça a beaucoup été avec des groupes d'entraide mutuelle situés en Normandie. On viendra peut-être sur les lieux. Ça n'a pas été facile non plus de trouver ces groupes. Mais comment vous avez fait pour justement intéresser ces personnes, les faire venir, vous, en tant que sociologue, pouvoir créer un groupe qui soit un petit peu hétéroclite, de personnes qui n'ont peut-être et d'une, pas l'habitude de participer à des recherches, et deux, pas forcément envie, ou peut-être qu'ils ne voient pas encore l'intérêt que ça peut avoir. Comment ça s'est passé au début pour ramener ces personnes-là, les inviter à participer à la recherche ?
Bien, disons que nous, les sociologues, enfin chercheurs qui accompagnons les personnes dans ce travail, avons été introduites sur le terrain par les représentants de l'association, donc qui ont fait ce travail premier de nous présenter à l'ensemble des personnes adhérentes à l'association. Et donc, on avait organisé une grande réunion avec l'ensemble des trois groupes d'entraide mutuelle qui existent en Normandie, et donc qui ont permis à cette réunion déjà de rassembler, en tout cas pour le site de Caen, une trentaine de personnes à peu près étaient présentes, 25 personnes, si mes souvenirs sont bons.
Ça a l'air facile quand vous dites on les a rassemblées, mais déjà, ça n'a pas été évident. J'imagine qu'il y a eu des obstacles, des freins peut-être qu'il a fallu expliquer, il a fallu peut-être motiver.
Alors, les obstacles, les freins sont peut-être plus venus des salariés, en fait, qui n'avaient pas été associés directement initialement au projet et qui ont donc appris son existence un petit peu tardivement. Hein. Et puis, les usagers aussi ont eu cette même critique en disant finalement, on n'a pas été associé non plus à l'élaboration de ce projet. Mais donc, il fallait réduire un peu cet écart-là. Mais en même temps, c'était compliqué pour les responsables du projet de faire la promotion d'un projet dont on ne savait pas s'il allait obtenir encore des financements. Donc, ce qui explique que c'était pas vouloir mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit, et laisser d'abord être sûr que ce financement allait bien être obtenu pour pouvoir mettre en œuvre la recherche, et ensuite négocier avec les personnes la possibilité d'un travail ensemble.
Mais alors, une fois effectivement qu'on a démarré le projet, même s'il y a eu quelques petits couacs de départ, c'est plutôt dans le cadre de la recherche, une fois que ça a démarré. Là encore, ça a quand même été compliqué de demander à des gens qui n'en ont pas forcément l'habitude, que ça peut effrayer, de leur dire vous allez participer à cette recherche parce qu'on a besoin de vous, on a besoin des premiers concernés et qu'eux seuls, finalement, peuvent être à même d'apporter quelque chose à cette recherche. C'est-à-dire, tout au long de l'année, ça a été une problématique ou pas du tout, au contraire, et tout le monde s'est parfaitement intégré dans cette recherche ?
Il y avait forcément des interrogations au départ hein, de la part des personnes qui méconnaissent effectivement la recherche. Les grandes craintes que pouvaient rencontrer les personnes ou exprimer en tout cas à ce moment-là, c'était surtout dans la capacité à rencontrer des élus, des décideurs publics et de se confronter à eux dans le cadre des entretiens, hein, des interviews, puisque le travail qui allait leur être demandé, c'était qu'ils se positionnent eux-mêmes comme des usagers-chercheurs, hein, donc qu'ils aillent au contact de ces décideurs publics pour les interviewer. Donc c'était ça qui pouvait apparaître impressionnant. Mais en fait, bon, il y a tout un travail qui s'est créé de mise en confiance petit à petit dans le groupe et des liens de solidarité entre les personnes aussi, des liens de proximité qui se sont noués, qui se sont tissés, qui ont permis de rassurer petit à petit les personnes et tout un travail d'entraînement aussi hein, à la situation d'entretien par le biais de jeux de rôle donc, qui ont permis de sensibiliser, de davantage mettre en confiance les personnes sur leur capacité à pouvoir rencontrer des décideurs publics.
Oui. Voilà. Claude.
Oui, non, je voulais juste préciser pour les auditeurs, il était question d'une réunion là, au départ avec 25 personnes, mais sur les 25 personnes, l'adhésion ou la formation du focus group, comme on dit, n'a pas concerné. Voilà, les gens se sont déterminés, on a présenté le projet, et c'est, au sein de ces 25 personnes, il y en a à peu près la moitié. 13 sur les 25 qui se sont déterminés pour faire ce travail de recherche. Hein. Ouais. C'était sur la base d'un volontariat.
Parce qu'il faut préciser encore pour les personnes qui n'ont pas écouté effectivement l'émission d'avant, dans laquelle on a déjà parlé de cette recherche, que effectivement tout a tourné autour de focus group et d'interviews. C'est-à-dire de faire travailler ensemble, de faire discuter ensemble des personnes dites donc handicapées psychiques, de leur faire dire leurs problématiques, d'essayer d'expliquer ce qu'elles vivent et de les faire rencontrer effectivement des décideurs, des élus, des maires, des politiques, des personnes, des institutions liées au handicap, et pour alerter ces personnes-là sur les problématiques qu'elles ont et essayer d'avoir des réponses, en tout cas initier un dialogue et peut-être commencer à même pour certains, j'allais dire, à alerter sur des questions dont ils ignorent quasiment tout. Bon, hein, il y a eu certains, il me semble, dans la recherche, certaines de ces rencontres qui ont été assez effarantes au niveau du degré de connaissance des décideurs sur le handicap psychique.
Oui, qui ne sont pas non plus si étonnantes que ça. En même temps, hein, voilà, tous les décideurs publics ne sont pas au fait de toutes les questions, des problématiques et des sujets de société. On le voit bien. Et c'est des préoccupations qui demeurent assez éloignées, effectivement, de leurs préoccupations, en fait. Hein. Donc, on ne pouvait pas s'attendre non plus nécessairement à ce qu'ils aient une connaissance très fine du domaine, sauf peut-être à ce que eux-mêmes soient davantage concernés indirectement ou directement au phénomène du handicap. Hein, mais... Voilà.
On les fera écouter l'émission pour qu'ils soient un peu plus au fait. On se retrouve tout de suite dans Recherche et Partage.
11h midi, Recherche et Partage avec la FIRA sur Vivre FM, Blandine Lacour.
De retour dans Recherche et Partage avec autour des micros Philippe Guérard, président d'Advocacy France, Claude Deutsch, qui est d'Advocacy France aussi, et Isabelle Maillard, sociologue et chercheur. Des focus group, des interviews qui ont été menées pendant un an avec des personnes considérées comme handicapées psychiques et des personnes qui sont très souvent peu écoutées par les décideurs publics au sein des institutions. Et voilà, Advocacy France a eu l'idée de se dire ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour finalement améliorer la vie de ces personnes-là et démontrer de façon scientifique dans le cadre d'une recherche, et qu'effectivement, il y a des problématiques, il y a des freins, il y a des obstacles qui font qu'on n'écoute pas, que la prise en compte de la parole des personnes dites handicapées psychiques reste un peu un leurre aujourd'hui. Voilà, ça, c'est la recherche que vous avez menée pendant un an, et j'aimerais qu'on y revienne tout de suite avec vous, Philippe. Le but de la recherche, de démontrer qu'il y a des problématiques, c'est finalement de redonner le pouvoir aux personnes concernées, de leur redonner l'estime d'elles-mêmes, de leur redonner une pleine citoyenneté, mais c'est même pas de leur redonner d'ailleurs, c'est peut-être de leur donner tout court, de les aider à accéder un jour à ça, et de voir quels sont les freins qui empêchent aujourd'hui une personne handicapée psychique d'avoir accès à une pleine citoyenneté.
Ben, déjà pour répondre, quand on arrive au monde, on est déjà citoyen. Et la citoyenneté, par son histoire de vie, elle peut très vite disparaître, être mise en question. C'est la difficulté de la santé mentale. On peut très bien arriver au monde avec une histoire comme tout à chacun, et à un moment donné, on pète les plombs, on est complètement à côté de la plaque, et là, comme par hasard, on nous coupe la parole, on n'a plus le droit de s'exprimer, parce qu'on est enfermé dans un pronostic de personne étant dangereuse ou pas, alors qu'il y a des choses à dire. Je pense que aujourd'hui, moi, ce qui me plaît dans cette recherche, pour l'avoir un peu de l'extérieur, parce que j'y suis et j'encourage, parce que c'est de voir des gens qui ont du mal même à pouvoir parler à leur médecin, d'arriver à aller voir un maire adjoint dans une mairie, c'est quand même quelque chose de vachement important, alors qu'ils ont peur tous les jours pour certains d'aller prendre la parole et là faire la démarche comme ça volontaire de dire oui je veux qu'on m'écoute, je vais aller expliquer un peu ce qu'est notre vie. C'est quand même quelque chose d'essentiel et les retours dans nos espaces conviviaux, ça a été de dire, eh ben j'ai été voir le maire adjoint, tu te rends compte, Philippe, c'est quand même vachement bien. Jamais. Et moi j'ai trouvé ça génial parce que pour une fois, il y avait personne ni devant ni derrière, c'était la personne elle-même qui s'exprimait et on le voit dans le film qu'on a fait. C'est essentiel de voir que la personne elle est capable, au même titre que chacun d'entre nous, de pouvoir arriver à prendre la parole. Et là, merci la recherche. Parce que quelque part, ça amplifie la philosophie d'Advocacy France. Nous, on disait soutenir la parole de la personne qui est disqualifiée. C'était notre philosophie. Aujourd'hui, elle change. C'est les gens qui vont prendre la parole. C'est pas nous qui allons les soutenir. C'est eux-mêmes qui vont prendre la parole. Et je crois que c'est un grand pas en avant. Et c'est ça qu'il faut qu'on entretienne et qu'on leur donne la possibilité de continuer à faire. Parce que nul, plein de gens, nul n'est contraint à se taire, et ça ne doit pas être le cas pour les personnes en souffrance psychique. On a tous des choses à dire, il faut leur donner les moyens. Et la recherche en est une.
On le voit, c'est toute la notion d'empowerment, je crois que vous aimez bien Advocacy France, pour dire c'est le pouvoir d'agir, redonner aux gens le pouvoir d'agir. Et ça, Isabelle, dans le cadre de la recherche, ça a été vraiment les premiers pas dans les focus group, de leur dire, bah, maintenant c'est à vous, vous avez la parole. Quelles sont vos problématiques et de quoi vous voulez finalement parler? Parce que quels sont les problèmes que vous avez?
Voilà, on est parti d'un brainstorming d'abord, où il était attendu des personnes qu'elles s'expriment sur les discriminations qu'elles vivent au quotidien, hein, que ce soit dans l'accès au logement, l'accès aux soins, le rapport au travail, dans le rapport à l'entourage, la famille, la parentalité, etc. Et donc à cette première séance de sensibilisation de l'ensemble des membres du DGEM hein, qui étaient présents, il y a déjà un certain nombre de problématiques qui ont émergé à ce moment-là. Hein. Beaucoup de personnes ont déjà témoigné sur les discriminations qu'elles vivaient au quotidien.
Alors par exemple
Dans la question de l'emploi, beaucoup, hein, à la fois les personnes, pour certaines, souhaiteraient accéder à un emploi en milieu ordinaire, pour d'autres, c'est la difficulté de rester, maintenir à leur emploi, d'autres souhaiteraient au contraire pouvoir s'investir dans une activité bénévole plutôt que dans une activité professionnelle. Donc voilà, c'était toutes ces difficultés auxquelles elles étaient confrontées, avec souvent une incompréhension majeure hein, de l'entourage, là en l'occurrence professionnelle, et beaucoup de discrimination en fait liées au recrutement liées directement au type de handicap aussi des personnes.
Alors il y a une multitude effectivement des situations, pratiquement autant que de personnes. Comment on fait du coup dans le cadre d'une recherche pour se positionner face à cette diversité? Parce que chaque personne, par rapport, vous le disiez, à l'accès à l'emploi, en fonction du type de souffrance qu'on a, j'imagine qu'il va falloir que l'employeur, dans ce cas, ait une sensibilisation spécifique et puisse apporter une réponse spécifique. Alors comment on fait pour, au final, faire une recherche qui soit un petit peu accessible et qui serve au plus grand nombre? Comment on fait pour trouver un tronc commun au travers de toute cette souffrance psychique?
Alors, il y a quand même beaucoup de problématiques communes hein, aux personnes. Et en fait, donc, on avait identifié ces différentes thématiques, hein, tutelle, soins, travail, logement, parentalité, entourage. Et les personnes ont ensuite, quand le groupe s'est constitué hein, autour d'une quinzaine de personnes, le groupe s'est positionné, a fait une priorisation des thématiques sur lesquelles il souhaitait travailler. Et c'est aussi comme ça, de cette manière, en cherchant les positionnés à une place d'acteur. Et c'est à eux de décider, de mener, de prendre des décisions sur la recherche qui les concerne. Ce n'était pas à nous, chercheurs, de décider à leur place. Donc c'était déjà les mettre dans une capacité d'agir et de pouvoir, à partir de là, ce qui, eux, les a intéressés et ce sur quoi ils ont voulu travailler durant cette première année, c'est la question de la prévention qui, en fait, englobait toutes ces thématiques, finalement, et qui permettait aux personnes d'avoir un questionnement plus large qui visait aussi à interpeller le politique et les élus sur ces questions-là.
Et alors, encore une fois, moi, il y a des choses qui m'ont un peu frappée dans ce rapport que j'ai eu la chance de lire. Mais par exemple, sur les thématiques du logement, il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas forcément de prime abord. Et j'imagine que dans le cadre des entretiens que vous avez réalisés avec des responsables politiques, par exemple, certaines personnes pouvaient ne pas être au courant, ne pas comprendre pourquoi, finalement, une personne qui a une souffrance psychique par ailleurs a une problématique spécifique d'accès au logement. Et effectivement, dans le rapport, où il y a beaucoup de nombreux exemples de situations, eh ben on explique que voilà, c'est peut-être une personne qui va avoir besoin d'un environnement particulier, moins agressif peut-être que dans d'autres endroits, etc. Donc il y a à la fois effectivement beaucoup d'exemples précis de choses auxquelles on ne penserait pas forcément, même en étant un petit peu sensibilisé. Et c'est ça qui a été, j'allais dire, peut-être, et même pour vous en tant que chercheur, est-ce qu'il y a eu des découvertes, vraiment des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas dans le cadre de ces discussions, où vous avez réalisé que finalement, peut-être c'était encore plus vaste ce domaine des problématiques que vous l'auriez imaginé avant de participer à ces focus group?
Oui, c'est évidemment très, très vaste. La problématique recouvre différentes dimensions, quoi, qui sont effectivement, qui s'embriquent en plus les unes dans les autres. Donc, tout ça est extrêmement complexe. Mais ce qu'on peut effectivement retenir, en tout cas, des interviews que les personnes ont réalisées auprès des décideurs publics, c'est que, effectivement, l'accompagnement, l'accessibilité au logement, ou même l'accessibilité au transport en commun, au transport public, etc.
Ah oui, il y a tout un passage sur les tramways. Hein,
ce sont des logiques que les élus, enfin qui échappent en partie aux élus. En fait, ce qu'on s'est rendu compte, alors il faut éviter quand même de généraliser trop hâtivement, hein, parce qu'on est sur un terrain spécifique, une localité spécifique, et bon, ce serait trop prématuré de dire que c'est un constat qu'on peut étendre au-delà, mais il semble effectivement que c'est quand même l'accompagnement des personnes qui sont en souffrance psychique, dites handicapées psychiques. La plupart des personnes, enfin des acteurs publics ne perçoivent pas en quoi ça consiste, hein, c'est bien ça le problème, et donc la plupart du temps l'accessibilité au transport, l'accessibilité au logement, elle reste pensée pour le handicap physique et non pas pour le handicap psychique qui passe finalement à la trappe, quoi. Ce qu'on a pu retenir, notamment au niveau des politiques menées dans les villes, c'est qu'il semblait que la politique du handicap restait généraliste et pas déclinée par type de handicap, ce qui a pour conséquence d'introduire aussi des processus discriminatoires finalement et de se retourner en fait sous couvert de ne pas vouloir discriminer ou stigmatiser un type de handicap plus qu'un autre. Du coup, finalement, on en vient à introduire des processus discriminatoires puisque dans les représentations, la dominance est celle du handicap physique et donc passe à la trappe le handicap psychique.
Est-ce que c'est pas ça justement qui ressort de ce rapport, cette invisibilisation du handicap psychique qui fait qu'il n'y a pas de prise en compte et qu'il n'y a pas de prise en compte de la parole notamment, mais donc finalement tout serait un peu une question d'éducation, de sensibilisation? Finalement, ils ne sont pas contre. Et les acteurs que vous avez rencontrés pendant la recherche, ils ne s'opposent pas la plupart du temps. Finalement, ils n'étaient juste pas au courant. Ils n'avaient pas compris que ça avait de l'importance.
C'est ça leur échappe en partie, hein, ce qu'il faudrait mettre en œuvre en termes d'aménagement, d'accompagnement pour les personnes confrontées à handicap psychique. Ce sont des problématiques que, a priori, les gens ne perçoivent pas. Ce n'est pas aussi identifiable facilement qu'une personne qui a un handicap physique.
Et la demande d'ailleurs, enfin, vous parliez des transports, enfin moi j'ai découvert ça avec une nouvelle acuité. La demande de l'accompagnement, c'est pas un accompagnement spécialisé forcément, c'est un accompagnement humain, qui est quelque chose qui se passe au niveau de la cité, pour que effectivement les repères soient d'abord, enfin voilà, la question des repères aussi simplement, hein, des parcours et tout ça soit plus accessible, et puis l'angoisse des transports, etc., puisse être traitée d'une manière facilitante pour les personnes angoissées. C'est quelque chose de très, très important. Alors aussi, les faits, vous posez la question de l'individu et du collectif. Moi, j'ai été frappé par cette expression de Virginie qui explique que elle a réussi à pouvoir parler. Et elle a réussi à pouvoir se parler parce qu'elle s'est retrouvée avec un problème qui n'était plus profondément intime, dans quelque chose où son intimité explosait, mais dans quelque chose de social et de collectif. Donc c'était un apaisement finalement pour elle de pouvoir se reconnaître dans quelque chose qui n'allait pas... qui n'était pas seulement son affaire à elle, mais l'affaire de tous.
Et Virginie, je le précise juste, qui était une des participantes au focus group et à la recherche.
Recherche et partage, jusqu'à midi sur Vivre FM, Blandine Lacour.
Dans Recherche et partage, ce midi, nous parlons de la disqualification de la prise de parole des personnes dites handicapées psychiques qui sont peu souvent écoutées, dont les revendications ne sont souvent pas entendues. Et dans le cadre d'un projet de recherche soutenu par la FIRA, il a été question de replacer ces personnes au centre du débat. Elles ont exprimé des soucis qu'elles rencontraient face aux décideurs publics. Et on va le voir avec Isabelle Maillard, qui est avec nous, qui est sociologue et chercheur. Ce rapport publié, qui va être prochainement disponible en ligne, et qui montre effectivement quelles sont les problématiques, les freins rencontrés par des personnes face aux institutions, c'est une première étape. Qu'est-ce qui va se passer demain ? On va continuer, vous allez continuer à faire des focus groups, des interviews, ou alors on passe dans un deuxième temps de la recherche toujours avec ces personnes qui vont participer, j'imagine. Alors, on recite juste le GEM de Caen, le groupe d'entraide mutuelle de Normandie. Alors, je ne sais pas si on dit de Caen ou de Normandie, mais en tout cas, vous avez beaucoup travaillé avec ce groupe-là. Voilà. Deuxième étape, qu'est-ce qui se passe demain, puisque la recherche continue ?
Voilà, donc en fait, peut-être rappeler, oui, effectivement, on était sur une première année d'études de faisabilité, mais le projet avait été initialement conçu sur 2 années, hein, sur différents sites. Donc, cette étude de faisabilité, elle a permis de redimensionner un peu les choses et de se centrer sur 2 terrains. Donc à Caen, où effectivement la démarche a pu se mettre en place. On a essayé aussi avec un autre site qui était à Villefontaine, où finalement les conditions elles n'étaient pas réunies. Et c'était en tout cas à l'époque et dans le contexte d'alors, hein, c'était, voilà, les conditions étaient complexes pour pouvoir constituer un focus group. Donc on a essayé de le mettre en place, mais finalement ça n'a pas pris. Donc on a aussi décidé d'aller sensibiliser un autre site qui était intéressé également pour participer à cette recherche. Donc c'est maintenant le défi de cette deuxième année, hein, dans un souci aussi de transférabilité de cette recherche, voir de quelle manière une expérience comme celle-ci peut être mise en place ailleurs. Le site de Tourcoing, enfin le GEM de Tourcoing et avec le GEM de Saint-Quentin, l'idée serait qu'ils s'associent donc pour former un focus group cette deuxième année et essayer de mettre en place cette même recherche avec eux. Et donc, avec le groupe de Caen, le travail se poursuit sur une deuxième année. Hein. Les personnes, là, ont travaillé toute l'année autour de la thématique de la prévention. Mais il y a bien sûr toutes les autres thématiques qui avaient été identifiées, qu'il va falloir reprioriser, redéfinir. Donc, ça sera au groupe de se positionner là-dessus et de choisir les axes thématiques sur lesquels ils souhaitent poursuivre ce travail. Donc, avec à nouveau des volets d'entretien d'autres acteurs locaux.
Et alors le but, au terme de la recherche, qui sera aux alentours de 2018, l'idée, c'est quoi ? C'est de publier des guides, des recommandations pour les acteurs publics, pour les décideurs, pour leur dire, ben, voilà, si vous voulez prendre en compte un petit peu les problématiques des personnes handicapées psychiques, voilà ce qu'il faudrait mettre en œuvre ?
Oui, alors c'est bon, c'était le projet initial de Claude, hein, de déboucher sur l'élaboration effectivement de guides, de recommandations. Bon, on voit bien qu'il y aurait tout un travail de réflexion à mener sur justement les outils, les supports qu'on utilise. Hein. On voit bien que la question de l'accès à l'information est extrêmement complexe, en particulier pour les personnes dites handicapées psychiques, puisqu'il existe effectivement de nombreuses informations, de nombreux guides existants, mais qui demeurent extrêmement complexes à décrypter pour elles. Il faut toujours aussi, comme elles disent, qu'elles aillent elles-mêmes à la pêche à l'information. L'information ne vient rarement à elles, donc il y a vraiment toute une réflexion à avoir sur ces questions-là et sur les modes de communication aussi à utiliser, hein, de plus en plus Internet est investi par les différentes institutions publiques comme un mode d'information et de communication majeur, mais on voit bien aussi que ce mode de communication n'est pas facilement accessible à tout le monde non plus, et que là, ça suppose aussi des médiations, quoi.
Et alors, j'ai peut-être... enfin, en tout cas, je vais émettre une idée, mais c'est vrai qu'à lire le rapport, on se dit, bon, la problématique, c'est une problématique d'éducation, de sensibilisation, c'est-à-dire qu'il faudrait que monsieur ou madame, tout le monde, dès son plus jeune âge, soit ouvert à la différence. Et c'est vrai, quand on lit le rapport, on est frappé par une chose, que toutes ces problématiques, elles sont peut-être plus accrues pour des personnes qui ont une sensibilité particulière, mais finalement, c'est les problématiques de tout le monde. Quand on parle des problèmes d'accès au logement, d'accès aux droits, d'accès aux soins, d'accès, voilà, c'est un petit peu. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était finalement ça reflétait des problèmes rencontrés par beaucoup de monde, et que ça ne devrait pas être une problématique purement de handicap psychique, mais juste de comment on accepte dans notre société la différence, comment on fait pour vivre avec des gens qui sont parfois sans être classifiés. En souffrance psychique ou mentale, mais juste qui sont des fois un petit peu plus lents, des fois un peu analphabètes, des fois, enfin voilà, chacun a sa spécificité. Et que c'est vrai qu'à lire ça, on se dit, est-ce que finalement, il ne faudrait pas sortir peut-être même ce sujet du handicap psychique pour l'amener sur le terrain de juste un peu d'humanité, puisque tout le monde est concerné, encore une fois. Claude.
Une des choses que à travers les interviews, je pense en particulier des responsables municipaux, qui est apparu, c'est qu'ils avaient des documents d'information destinés aux gens de la cité. Et que finalement, plutôt que de chercher à faire des guides d'utilisation pour les personnels spécialisés, il y avait aussi à informer, grâce à la recherche, en utilisant les supports des municipalités, par exemple. C'est une chose auquel je n'aurais pas du tout pensé au départ.
Oui, parce qu'on peut communiquer, finalement. Et c'est difficile de penser à tous les publics, mais il y a certaines choses qui sont faites pour certains publics, et on peut les adapter, finalement, un peu plus facilement pour d'autres types de publics ou de handicaps. C'est ça que vous nous dites un peu, Philippe, sur cette recherche et sur cette année de discussion, de focus group, d'interview. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on va réussir justement à faire avancer cette question du handicap psychique auprès des décideurs publics sans passer par effectivement une sensibilisation très large et très tôt de tout à chacun?
Vous savez, là je fais voir, en 1975, il y a eu une loi déjà pour le handicap. À l'époque, c'était les Cotterêts et tout ça. On en a vu les résultats, et encore, quand je dis les résultats, c'est très petit, 40 ans après. Donc, vous savez, les choses se font. La culture du handicap, c'est quelque chose qu'il faut que les gens s'approprient et arrivent à se dire que toute personne a le droit à une chance dans la vie. Pour des jeunes, ça va passer par l'apprentissage dans une institution, dans une école. Pour une personne en souffrance psychique, ça va être l'apprentissage à la sortie de l'hôpital, comment je fais pour prendre mon indépendance? Mais c'est le problème de tout à chacun, c'est le problème d'un gamin qui sort de chez ses parents, qui a été pris en charge, couvé, tout. Je veux dire, l'institution, à un moment donné, elle vous empêche d'aller vers vos droits, la citoyenneté, elle vous chouchoute dans son truc, voire maltraite, bien souvent, malheureusement. Je pense que là, il y a des choses... Puis si c'était pas pour avancer, je ne serais pas là, moi. J'ai envie de vraiment que ça continue. Et il y a quand même, je veux dire, les résultats, là, je suis pas du genre à caresser les genoux de quelqu'un, mais le travail qu'Isabelle a investi dans ce travail montre aujourd'hui les résultats. Les gens sont contents d'aller à la MDPH tout seul, c'est pas grand-chose d'aller à la MDPH, mais déjà franchir le guichet unique de la MDPH, bien qu'unique, c'est un grand mot, pouvoir prendre en charge ça, dire « Philippe, je suis allé à la MDPH, me renseigner sur tel ou tel droit », c'est un sacré progrès. Avant, ils n'auraient jamais fait ça. Aujourd'hui, on les a aidés à dédramatiser leurs difficultés qui, parfois, les empêchent d'aller plus loin. Mais ce sont des citoyens comme tout le monde. Bon Dieu, excusez-moi.
Non, mais on a envie de se dire, mais ça, effectivement, c'est chouette et c'est fantastique. Et c'est un des premiers résultats concrets de la recherche. Mais Et c'est là tout l'enjeu de la transférabilité, ce que disait Isabelle à l'instant. C'est comment on va faire aujourd'hui pour que des personnes qui n'ont pas participé à cette recherche aient accès à ces facilités, à cette offre d'aller vers l'autre, d'arriver à mieux défendre ses droits.
Oui, alors il y a un autre outil hein, d'éducation du public qui est quand même assez répandu aujourd'hui. C'est la télévision, j'allais dire. Voilà. C'est-à-dire que la grande ambition aussi qui est de ce projet, c'est de réaliser un film qui montre la capacité des usagers à faire cette recherche. Et donc nous avons demandé à Guillaume Dreyfus, qui a entre autres eu un film sur LCP, qui s'appelait Hygiène raciale, enfin qui a été diffusé, de suivre toute la recherche. Donc à chaque étape de la recherche, nous fournissons aux financeurs un document filmé, qui est un document d'étape. Et l'idée, c'est d'arriver à la fin, grâce au montage, grâce voilà, aussi accompagné avec des interviews des intéressés et tout, à faire un film qui puisse être effectivement projeté, si les chaînes veulent bien évidemment accepter ce film.
Voilà, et là, on espère que du coup, on pourra toucher effectivement un plus grand nombre de personnes à qui ça pourrait être utile.
Et la radio aussi, bien sûr.
Oui, ouais, ça. Mais on voit bien aussi qu'il y a tous les professionnels qui sont informés sur cette question du handicap psychique, notamment. Hein. Je pense à la loi de 2005, pour laquelle il reste un certain nombre d'impensés pour le handicap psychique, hein, puisque les prestations de compensation pour le handicap, par exemple, ont d'abord été pensées pour le handicap physique que psychique. Donc, il y a tout un tas de dispositifs pour l'emploi, pour favoriser l'insertion professionnelle des personnes vers l'emploi non plus, qui n'a pas du tout, absolument pas été pensé et mis en œuvre encore pour le handicap psychique. Donc on voit bien qu'il y a aussi un certain nombre de chantiers qui sont à développer et qu'il y a encore beaucoup d'améliorations à apporter.
En gros, ça avance et la recherche en fait partie. Philippe me fait signe, un dernier mot.
Oui, non, mais je voulais dire par rapport à l'information, vous dites, mais ceux qui ne sont pas venus à la recherche, comment ils vont faire? Sauf que les gens entre eux, ils causent. Ils causent et ça s'appelle aussi la pérémulation. C'est que quand on est arrivé à acquérir quelque chose, on est tout de suite content de pouvoir aller le médiatiser dans le lieu où on vit. Je veux dire, ça se passe comme ça, il y a du discours, il y a de l'échange, et puis tout le monde va être au courant à un moment donné. Parce que l'effet va arriver quand les gens reviendront et diront « Moi, maintenant, à la MDPA, j'arrive à me démerder tout seul. Bah, » ils auront gagné, les autres, ils diront « Comment t'as fait ?» Puis voilà, je veux dire, tout ça, ça va obligatoirement, au bout d'un moment, donner des résultats. Et là, il y aura vraiment un travail qui aura été fait. Moi, c'est
Tout à fait, mais on y reviendra. Mais c'est évident que l'expérience, le partage d'expérience et la pérémulation, effectivement, ont un rôle important à jouer dans ces avancées, en tout cas pour les personnes concernées. On va se quitter là-dessus parce qu'on arrive au terme de l'émission. On invite tous les auditeurs à se rendre très prochainement sur fira.org puisqu'il y aura le rapport qui sera mis en ligne et vous pourrez découvrir très en détail tout le travail qui a été mené par Advocacy France, par les chercheurs sociologues investis dans ce projet de recherche et les autres partenaires. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous ce midi sur Vivre FM. Et on se retrouve, nous, très prochainement, dans un mois. Et vous retrouvez, en tout cas, d'ici là, toutes les informations concernant Advocacy France et la FIRA sur le site de Vivre FM.
Vivre FM, podcast.